Voilà donc, bonjour chères auditrices, chers auditeurs. Donc nous sommes de retour avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Et une émission qui nous invite de réfléchir ensemble sur ce qui est le plus important dans une société, la justice. Et justement, si ce pilier justement central s'effondre dans une société, tout le reste va suivre la chute. L'éducation, la santé, la sécurité, l'évolution, le développement, enfin tout. Donc la justice est semblable à cette théorie de l'existence de Dieu. Si vous ne croyez pas, vous pouvez plus facilement tout permettre. L'anarchie devient une ligne légitime à suivre. C'est la justice qui revient et appartient le vrai équilibre d'une société. Alors une société qui se distance de ce noyau, elle court en définitive à sa perte. Et justement, dans notre propos, il n'y a rien qui peut stopper les injustices et les abus de pouvoir qui se sont devenus d'ailleurs des règles communes à cette société que de sanctionner et d'une manière sévère les comportements interdits de ces abuseurs, ces fonctionnaires de l'État qui jouissent de la loi et de l'impunité. Donc, qui sont aussi hautement protégés, sachant très bien qu'ils sont fautifs, voire des criminels par occasion. Donc, nous avons été informés, justement, cette semaine d'une décision du comité de déontologie policière dans le dossier d'un citoyen qui avait succombé à ses blessures le 18 octobre 2007 après une intervention policière de la SPVM, et il s'agit bel et bien de M. Kilem Registre. Tout le monde se rappelle de la mort tragique de cet homme âgé de 39 ans qui a été intercepté par des agents de la SPVM. Il s'agit de l'agent Yannick Bourdelot et Steve Thibert, deux patrouilleurs de la SPVM. Donc M. Kilem Registre apparemment avait négligé de respecter un stop. Ce dernier semble-t-il en état de panique à la vue des policiers et il s'enfuit donc avec son véhicule pour heurter en plein fouet un autre véhicule. L'autopsie, soi-disant, va révéler des traces d'alcool et de cocaïne. On parle de taux d'alcool ou de quantité de cocaïne, mais plutôt on parle de traces. Bref, M. Kilem était agité et toujours selon la version des policiers impliqués, il avait refusé d'obtempérer à leur ordre. Donc il ajoute dans leur témoignage quelque chose de comique, hein, que M. Kilem a vu soi-disant tenter après l'accident de leur donner des coups de pied, une manière de leur faire ou de leur dire soi-disant « foutez-moi la paix » simplement, et il ajoute selon leur version toujours qu'il était hystérique. Alors dans une situation semblable, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Écoutez, chère auditrice, chers auditeurs, au lieu d'appeler du renfort et le service de santé, l'un des deux policiers suggère à son collègue d'utiliser son pistolet électrique. Pas tout à fait nécessaire, mais à la rigueur, on va tenter d'accepter pour le moment l'utilisation de cette force. L'agent de la SPVM, Yannick Bourdelot, à l'aide de son pistolet électrique, il va shooter rapidement dans le corps de M. Registre une première décharge électrique de 50 000 volts. Et vous comprenez très bien qu'une telle décharge va complètement paralyser la personne visée et l'opération devra normalement s'arrêter là. Nombreux d'ailleurs qui ne sont pas d'avis, donc cette première décharge n'est sûrement pas la meilleure façon de faire, vu que M. Registre n'était pas menaçant ou violent au moment de l'arrestation. Il a paniqué à cet effet, une réaction qu'on peut comprendre, mais rien d'alarmant jusque-là. Vous comprenez aussi, chères auditrices, chers auditeurs, que sur cette décharge jugée à la limite passable, le policier risque de répondre à une interrogation plutôt serrée. Donc, avait-il utilisé une force excessive pour maîtriser la victime ? Y avait-il d'autres moyens possibles ? Enfin, toute une série de questions embarrassantes. Mais maintenant, je vous rappelle que M. Kilem Registre, cet homme de 39 ans qui était dans une excellente santé au moment du drame, est mort à l'hôpital Sacré-Cœur 4 jours après intervention policière. Et probablement, ce n'est pas cette première décharge électrique qui était la cause de sa mort. Écoutez maintenant l'histoire de l'abus de pouvoir. Hein. L'agent Bourdelot de la SPVM et l'auteur de cette première décharge n'avaient pas jugé que la décharge de 50 000 volts était suffisante. Mais plutôt, il a suivi cette décharge par une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième, puis une cinquième, puis une sixième décharge. Alors vous comprenez, mes chères auditrices, chers auditeurs, que la mort suivait simplement son cours. C'était de toute évidence une mort inévitable. Comment pouvez-vous expliquer ce genre de comportement, d'attitude devant une personne non armée? Voyons maintenant les circonstances de la mort de M. Farshad Mohammadi, cet itinérant abattu par un agent de la SPVM le 6 janvier de cette année. Donc, on ne répète le même scénario. Une première balle en plein corps, ce n'est pas une décharge électrique, mais plutôt c'est une balle qui provient d'un pistolet capable d'atteindre sa cible à 100 mètres. Cette première balle qui avait atteint M. Farshad n'était pas suffisante selon le jugement du policier en question. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Après ce premier coup, est-ce qu'il a appelé une ambulance pour apporter des secours à la victime? Non. Il s'est laissé porter par les escaliers roulants du métro jusqu'au palier où le corps de M. Farshad avait fini sa course, visiblement allongé, et c'est là qu'il va lui tirer, ou bien shooter, si vous voulez, deux autres projectiles. Y aura-t-il quelqu'un, chère auditrice, chère auditeur, qui pourra nous dire pourquoi cette deuxième et cette troisième balle? Y aura-t-il quelqu'un qui pourra nous dire aussi pourquoi cette deuxième décharge, et troisième, et quatrième, et cinquième, et sixième décharge de 50 000 volts dans le corps de M. Registre? Une chose est certaine, ce n'est pas une méthode pour maîtriser un individu. Attention, ce n'est pas des terroristes. Dans le premier cas, par exemple, on part d'un citoyen qui a grillé un stop au départ. Et dans le second cas, on part d'un sans-abri qui s'est réfugié dans une station de métro pour se réchauffer. Écoutez, je vous laisse en compagnie de ces images qui défilent la rage de cette force aveugle qui frappe à tout moment et à n'importe où. Au micro avec vous ce matin, Hadj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme en défense des droits de la personne qui est supposé de faire la surveillance civile des institutions judiciaires pour prévenir et dénoncer les rabus de pouvoir. Avec moi, comme d'habitude, mon collègue Roland Cazès, Clara, une future juriste, et Madame Rosemont de Logo, technicien de son et qui fait le suivi des dossiers administratifs. Nous vous rappelons, chers auditrices, chers auditeurs, que vous pouvez toujours communiquer avec nous si vous le souhaitez, ou bien si vous souhaitez aussi dénoncer une injustice ou un abus du pouvoir, vous pouvez nous rejoindre au 514-273-4302, ou bien nous écrire à info@commercialmach-quebec.com. info@commercialmach-quebec.com. Restez à l'écoute, nous revenons à la suite de notre émission après notre thème musical.
C'est une émission formidable sur les problèmes de société où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqués. Un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique, vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique, pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seul pouvez nous renseigner. Quel bas-fond la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. « c'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société. Une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Tout ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la une. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et déportés. Ce soir, après la roue de la fortune, un baf obscène est à la une.
Voilà, rebonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Vous savez tous, mes chers auditeurs, qu'il n'y avait aucune poursuite criminelle contre l'agent Bourdelot, liée directement à la mort tragique de M. Guilhem Registre, et que le comité de la déontologie policière, une institution bidon qui n'a aucune utilité, sinon un cirque médiatique, avait justement penché sur le cas de M. Guilhem Registre, comme d'ailleurs des centaines d'autres, et justement pour apaiser un peu les esprits. Donc ils ont rendu une décision de suspendre l'agent Bourdelot de ses fonctions pour une période de 20 jours. Hein. Donc, et encore mieux, ils ont sanctionné son collègue, l'agent Steve Tiber, d'une suspension de 5 jours sans salaire. Voilà, donc nous avons devant nous la mort d'un homme et en face une suspension de 20 jours. Voilà la valeur réelle de la vie d'un citoyen ici au Québec. Et le comique dans tout ça, c'est que ce scénario, il se répète chaque fois qu'il y a mort d'homme. Je vous rappelle une histoire comme d'autres, donc le cas par exemple de Jean-Pierre Lizotte, cet itinérant qui lui aussi, soi-disant pour le maîtriser, l'agent Giovanni Stante de la SPVM, lui avait assommé de violents coups au visage au point de lui avoir brisé les os du nez. Imaginez-vous, briser les os du nez. Un juge de la Cour supérieure qui a voulu mettre fin à cette sorte de comédie à répétition, et en dernier recours pour maintenir une suspension de 25 jours prononcée contre le policier qui a battu M. Lizotte, et je cite les paroles des juges Larouche de la Cour supérieure. Donc il disait quoi? Il disait le suivant, donc, il nous paraît impensable que pour un policier en fonction qui assène des coups de poing au visage d'un individu pour le contrôler, que de tels gestes ne résultent pas de l'utilisation d'une force excessive. Fin de citation. Donc vous voyez que cette phrase, on peut l'appliquer dans des centaines et des centaines de cas où la force excessive utilisée par les policiers fait règle commune. Le rappelons aussi que Jean-Pierre Lizotte est tombé lui aussi dans le coma et décédé malheureusement quelques jours après. Aucune accusation non plus, sauf que l'agent Giovanni Stante de la SPVM a toujours les mains tachées du sang de la victime. Je le répète, le plus ridicule, c'est cette force hautement excessive non nécessaire qui se répète de plus en plus et que nous ne pouvons pas stopper, nous les citoyens malheureusement. Et la volonté politique demeure toujours la même. Adoptant la loi du silence et l'impunité fait de plus en plus honte. Projet de loi 46 qui modifie la politique ministérielle en matière de décès à l'occasion d'une intervention policière. Un projet en écran de fumée qui va être adopté forcément, puisque le gouvernement est majoritaire. Les sanctions ridicules des comités de la déontologie policière à l'encontre des policiers en infraction majeure, l'intervention de la fraternité policière et leur devise d'être avec le policier à tort ou à raison. Vous voyez, mes chères auditrices, chers auditeurs, il n'y a malheureusement pas pour le moment une sortie de secours à ce cercle vicieux et que le citoyen continuera à payer le prix d'une façon ou d'une autre. Maintenant, la réforme de la procédure d'enquête appliquée au Québec lors d'un incident grave impliquant des policiers est devenue la revendication la plus grande de la plus grande majorité des citoyens, pour ne pas dire la totalité. Donc, il reste que le modèle proposé par le ministre de la Sécurité publique est loin d'être la solution. Et nous disons finalement, aussi longtemps qu'un corps policier enquêtera sur un autre corps, le citoyen demeure en permanence la victime par excellence. Et que le projet de loi 46 du gouvernement vient simplement appuyer et renforcer la bêtise et la sottise de l'appareil policier. En attendant la prochaine victime, peut-on avoir au moins le souci de réfléchir ensemble? Comment peut-on arrêter cette machine de destruction? Nous allons faire une pause musicale et nous revenons avec nos invités d'aujourd'hui. Il y a M. Pierre Patry, trésorier de la CSN, et Mme Camille Robert, et membre étudiante de l'ICAM. Ils viennent nous parler de la revendication et nous dire qu'est-ce qu'ils pensent de l'attitude des policiers vis-à-vis à leur droit de manifester. Cette image transmise par les médias qui nous a choqués en voyant un policier de la SPVM hystérique qui fonce sans aucune justification valable sur des étudiants qui exercent leur droit de manifester pacifiquement. Est-ce un message du gouvernement aux étudiants ou une intimidation de la part de la SPVM? Restez à l'écoute.
Je me suis chopé 500 lignes, je ne dois pas parler en classe. Ras-le-bol de la discipline, y en a marre, c'est dégueulasse. C'est même pas moi qui parlais, moi je répondais à Arthur, qui me demandait en anglais comment s'écrit nos futurs. Si on est puni pour ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? C'est quand même un peu galère d'aller chaque jour au chagrin. Quand t'as tellement de gens sur terre qui vont pointer chez Fourien. Fais tes devoirs à la maison, je fais ma semaine de 60 heures. Non seulement pour pas un rond, en plus pour finir chômeur. Veulent me gaver comme une oie avec des matières indigestes. J'aurais oublié tout ça quand j'aurais appris tout le reste. Soulève un peu mon cartable, est lourd comme un cheval mort. 10 kilos d'indispensable, théorème de Pythagore. Si je dois m'avaler tout ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? L'essentiel à nous apprendre, c'est l'amour des livres qui fait que tu peux voyager de ta chambre autour de l'humanité. C'est l'amour de ton prochain, même si c'est un beau salaud. La haine, ça n'apporte rien, puis elle viendra bien assez tôt. Si on nous apprend pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Quand je serai grande, je veux être heureuse, savoir dessiner un peu, savoir me servir d'une perceuse, savoir allumer un feu, jouer peut-être du violoncelle, avoir une belle écriture, pour écrire des mots rebelles, à faire tomber tous les murs. Si l'école permet pas ça, alors je dis halte à tout. Explique-moi, papa, c'est quand qu'on va où? Tu dis que si les élections, ça changeait vraiment la vie. Il y a un bout de temps, mon colon, voter, ça serait interdit. Ainsi l'école, ça rendait les hommes libres et égaux. Le gouvernement déciderait que c'est pas bon pour les marmots. Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où? Si tu penses un peu comme moi, alors dis halte à tout. Maintenant, papa, c'est quand qu'on va où?
Donc voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs, revenons à notre émission d'aujourd'hui. Donc j'aimerais bien poser la première question à Roland Cazès, mon collègue Roland Cazès, à propos, on a tous vu sur les écrans de la télévision des images qui nous ont choqués lors d'une manifestation étudiante où il y avait des étudiants qui manifestent pacifiquement, puis il y avait un policier complètement hystérique qui a foncé dans la première ligne et puis apparemment il a même blessé des étudiants. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui Roland à cette intervention?
La première des choses, mon opinion personnelle, moi je ferai passer un test de psychiatrie à ce policier.
Tout à fait, je suis
d'accord. C'est un malade mental, ouais. Pour commencer.
Mais pourtant, tout était pacifique, hein, la ligne était pacifique,
ils ont arrosé avec du poivre de Cayenne dans la face de certains étudiants. Alors certains étudiants ont demandé au policier, en ordre, très en ordre, en ligne droite, avec une banderole, les deux mains sur la banderole.
C'est visible, oui.
On demandait au policier, pourquoi vous nous arrosez avec du poivre de Cayenne? On manifeste en bonne et due forme, on a le droit de manifester, c'est un signe démocratique dans notre pays. D'ailleurs, on a obtenu beaucoup de choses dans notre pays en manifestant.
Qu'est-ce qui a mené cette ordure du policier?
Le policier a décidé de rentrer à coup de poing dans la banderole qui était bien en ligne droite.
D'un seul coup foncé.
À coup de poing, comme un gorille, de gorille à dos argenté, là, en Afrique. Là. Oui. Il est rentré dedans à coup de poing, il a frappé deux gars. Oui. Les deux n'ont pas, je vous le jure, j'ai bien observé, n'ont pas répliqué, ils se sont tenus correctement. Naturellement, la banderole a fait un zigzag. C'est normal. Alors, debout, un jeune homme avec une jeune femme ont été contestés cette façon agressive. Le même policier s'est jeté à attraper le gars. Vous connaissez le jeté du nain? C'est un espèce de sport qu'il y avait avant, jeter les nains. Il y a eu d'ailleurs une interdiction parce qu'il y a eu une discrimination de petites personnes. Il a attrapé le gars, il a garroché à bout de bras, il a attrapé la jeune fille et il a garroché à bout de bras comme le jeté du nain. Moi je vais vous dire une chose.
Chez vous, une femme, la garroché une femme comme ça, là, si elle était enceinte.
De quel droit a-t-on le droit de frapper une femme? Elle pourrait être enceinte, cette femme. On pourrait être un criminel. Ce policier doit passer un test de psychiatrie. C'est un malade mental. On n'a pas le droit de frapper les femmes. Comment devant mille et quelques jeunes, on montre la façon de frapper une femme?
Mais les conséquences aussi, vous avez souligné, si par exemple cette femme-là, soi-disant, elle était enceinte, je ne sais pas, un assassinat aussi.
Et après ça,
on va apporter toutes des sortes de thèses, comme quoi c'est un accident, écoutez, blablabla.
Donc j'ai écouté les communications du policier qui prétendait qu'il voulait encercler les chars. Comment peut-on encercler un automobile policière en ayant une banderole en ligne droite? C'est ce que je veux savoir. C'est pas vrai. Les automobiles en circulaient, c'était plutôt les policiers qui empêchaient les voitures de passer. Et par prudence, les chauffeurs faisaient attention aux policiers. J'ai senti dans les autres policiers, parce qu'il y a des bons policiers aussi, j'ai senti la gêne. Mais moi, je veux demander à ces femmes, à Sarah, à Clara, excusez-moi. Oui. Clara, est-ce que vous trouvez normal qu'un policier frappe une femme?
Non, pas du tout. Le principe, c'est qu'on ne frappe personne. Voilà. Mais est-ce que ça aurait été différent si ça avait été un homme? Est-ce que vous aurez réagi différemment si ça avait été un homme?
Moi, je l'aurais foutu sur la gueule, moi. Mais moi, je suis un homme, c'est pas pareil. Ben moi, là, ce sauvage-là, écoutez, je m'excuse, c'est sauvage. Je trouve que c'est un très mauvais exemple.
Moi, j'aimerais juste poser maintenant la question directement à notre invitée d'aujourd'hui, Camille Robert. Elle est membre étudiante à l'UQAM. Vous appartenez à quelle association, madame?
Oui, mais je suis membre de la classe, qui est la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Oui. Donc, l'AC, normalement...
Et vous êtes, c'est quelle branche, dans quelle branche, université?
Moi, je suis à l'UQAM en histoire.
En histoire, voilà. Revenons à l'histoire maintenant de ce policier qui a foncé directement dans la ligne des manifestants étudiants. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui?
Ben, malheureusement, je pense qu'on voit que ça, c'est pas une exception. Là. C'est pas la première fois que la police s'en prend aux étudiants et étudiantes.
Donc, c'est commune, voilà.
Oui, donc finalement, c'est malheureusement, c'est assez chose commune. Juste cet été, ce qu'on a vu, c'est la création d'une nouvelle escouade au SPVM, donc Gamma, le guet des activités des mouvements marginaux et anarchistes. Puis dans ce contexte-là, il y a quelques dizaines de personnes reliées au mouvement étudiant qui ont été arrêtées, toutes des personnes pour la plupart qui occupaient des postes élus soit à l'AC, soit dans différentes associations étudiantes. Donc on voit clairement ici qu'il y a une répression concertée de la police contre le mouvement étudiant. Ou sinon, juste le 31 mars dernier, à l'occasion d'une manifestation, il y a eu des étudiants et étudiantes...
Qui ont participé à la manifestation, tout à fait, oui.
Oui, qui ont participé puis qui ont été poivrés aussi par les policiers le 31 mars dernier. Donc, c'est assez fréquent, malheureusement.
Mais vous êtes en train de dire aujourd'hui que le comportement des étudiants sont toujours pacifiques. Ce n'est pas des gens qui mettent des troubles, tu comprends?
Bien, évidemment, il peut y avoir des confrontations avec les forces de l'ordre, c'est-à-dire que...
Mais la majorité, la blanche,
oui,
normalement...
Oui, en général, les manifestations se passent dans le calme, puis finalement, évidemment, il y a des altercations avec les policiers, surtout quand ceux-ci ont des conduites comme on l'a vu il y a deux semaines. Là. Donc, il y a des étudiants et étudiantes qui peuvent venir questionner les agissements des policiers. Puis, c'est à ce moment-là qu'on voit qu'il y a encore plus de répression, finalement.
Oui, écoutez, Mme Robert, ce que j'aimerais bien savoir maintenant, est-ce que c'est un signe d'intimidation de la part du gouvernement, pensez-vous, ou bien c'est vraiment c'est l'SPVM qui veulent vraiment montrer leur force et dire aux étudiants, restez calmes, là, vous n'avez les revendications, ça ne sert à rien et tout. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez une idée de tout ça?
Ben, je ne sais pas si c'est concerté, mais on voit que d'un côté comme de l'autre, il y a une volonté de maintenir la paix sociale, d'étouffer les revendications du mouvement étudiant. Puis je pense que les attentes du gouvernement comme de la police, c'est d'espérer que cette répression-là nous fasse taire, mais au contraire...
C'est ça ce qui va vous révolter le plus, vous le disiez?
Ben,
de ne pas être respecté, justement, sur toutes les bases, quoi.
Ouais, ben finalement c'est ça. Ce que ça nous montre, c'est que les étudiants et étudiantes n'en sont que plus déterminés à lutter contre la hausse des frais de scolarité. Puis c'est pas cette répression policière là qui va nous intimider.
Oui. Clara, à propos de, vous êtes étudiante aussi.
Oui, étudiante en droit en première
droit
année.
Aussi. Comment vous voyez la réaction des étudiants?
La réaction des étudiants, ben c'est très très valable de vouloir manifester pour ses droits, et voilà, c'est un droit de pouvoir étudier.
Oui, tout à fait. Oui. Ouais,
est-ce que vous êtes au courant que la femme, en général, oui, qui étudie comme le gars qui étudie, touche seulement 61 cents par rapport à l'homme qui touche
On va passer à une annonce publicitaire et on revient avec vous.
Il a foutu le camp. D'amour, le temps des toujours, toujours. Il m'a planté l'assemblée, c'est l'adresse. Il est parti, adieu Berthe. Si tu le vois, ramène-moi, dit le joli temps du lilas. On en sourit du coin de l'œil, mais on en rêve du grand amour. Je l'ai connu, j'en prends tout le deuil.
TD présente Fondu au Noir en collaboration avec Astral du 1er au 25 février. Célébrez le mois de l'histoire des Noirs tous les samedis du mois de février avec les grands spectacles TD au cabaret du Myland. 11 février, soirée jazz avec Makaya et Charles Biddle Jr. 18 février, musique du monde avec Vox Sambu et Wesley. 25 février, soirée gospel avec Sylvie Desgroseilliers et la chorale du Conservatoire de musique moderne. Réservation fonduournoir.ca. Un événement de la Fondation Fabienne Cola.
Bonjour, ici Pierre Lahaye, horticulteur. Je vous invite à prendre une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h à Radio Centre-Ville au 102,3 FM. Je vous parlerai d'horticulture, d'environnement et aussi de musique. Une bouffée d'air frais tous les mardis de 13h à 14h.
En ondes depuis 20 ans, l'émission Folie douce est fière d'avoir remporté le prix d'excellence médiatique 2011 de l'Association des médecins psychiatres du Québec. Félicitations à tous les artisans pour ce bel honneur. Écoutez-nous chaque jeudi matin dès 10h au 102,3 FM à Montréal.
Nous représentons la réalité multiculturelle de Montréal. Plusieurs langues, plusieurs communautés, une même implication sociale. En matière de musique,
Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Donc voilà, rebonjour chères auditrices, chers auditeurs. Nous sommes toujours avec notre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Je repasse directement à Madame Camille Robert, étudiante et membre à l'Université de l'UQAM. Elle est venue aujourd'hui nous parler un petit peu de la revendication étudiante. Madame Robert, est-ce que pouvez-vous nous dire en quoi ça va déranger l'impact, quel est l'impact plutôt de la hausse de frais de scolarité sur les étudiants de la province de Québec?
Oui, donc c'est l'impact sur le plan économique, évidemment. Les étudiants et étudiantes devront travailler plus, travailler soit plus d'heures durant leur année scolaire, ce qui va évidemment nuire à leurs études, sinon travailler plus durant l'été. Sinon, une autre avenue, c'est de s'endetter plus, souvent auprès de banques privées, en prenant des prêts personnels. Oui. Parce que la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, a annoncé que une partie des étudiants et étudiantes serait compensée par plus de bourses. Mais on voit que finalement, cette compensation-là, ça va juste toucher ceux et celles qui touchent déjà le maximum de bourses actuellement. Donc, tout le reste devront s'endetter plus. Puis finalement, il n'y aura pas vraiment de compensation financière pour cette hausse-là.
Mais pour les gens que vous demandez, vous disiez, les étudiants sont obligés de travailler, aller au marché du travail. Comment vous voyez quelqu'un qui travaille, qui va augmenter les heures de travail, au même temps des heures d'études et tout, est-ce qu'ils peuvent avoir un équilibre entre les deux?
Ils vont finir par décrocher.
j'aimerais bien mieux que.
Ouais, ce qu'on va voir, c'est que.
C'est-à-dire, est-ce qu'on peut consacrer vraiment des heures de travail et au même temps consacrer des heures pour étudier en même temps?
Ouais, si on voit la charge de travail qu'il y a à la fois au cégep et à la fois à l'université, déjà là, quelqu'un qui travaille 15 heures par semaine, c'est vraiment saturé comme horaire.
C'est l'épuisement, vous parlez?
Ouais, moi, je le fais, puis je peux vous dire, pour faire les deux, c'est vraiment pas évident à concilier. Puis sinon, c'est ça. Ce qu'on va voir, c'est que ceux et celles qui ont moins d'argent, qui proviennent de familles moins nanties vont être pénalisés par la hausse des frais de scolarité.
C'est ça la question que je voulais poser. Est-ce que c'est vraiment cette hausse, c'est-à-dire l'impact réellement de la hausse des frais de scolarité, il touche plus la classe moyenne ou l'impact là vraiment, il va déséquilibrer vraiment la classe moyenne, c'est elle qui va souffrir le plus ou?
Oui, mais en fait, on voit évidemment que
on
ça va être.
On parle des travailleurs, oui, hein, les parents. Oui.
Ça va être les familles les moins nanties, puis non seulement avec la hausse des frais de scolarité, mais aussi avec les budgets des deux dernières années, les budgets provinciaux, on voit qu'il y a énormément de mesures régressives, que ce soit la taxe santé de 200 $, la hausse de la taxe provinciale. Donc, on voit que c'est des mesures qui s'appliquent différemment du revenu des ménages. Donc, quelqu'un qui va gagner 500 000 $ par année va payer la même taxe santé qu'une personne qui va gagner 20 000 $ par année.
Mais pouvez-vous nous dire en chiffres, on parle de 75% d'augmentation?
En fait, c'est environ une augmentation de 50%, donc une hausse de 1 625 $ par année qui va être échelonnée graduellement sur 5 ans. Oui. On rappelle qu'il y avait déjà eu une hausse en 2007 de 50 $ par session cumulatif.
Oui. Merci. Madame Clara,
oui.
Vous êtes étudiante à l'Université de Montréal, et vous êtes aussi une future juriste. Quel est l'impact pour vous, pour cette hausse de frais de scolarité pour les
étudiants? C'est un fardeau. C'est un fardeau à porter, ouais, de voir ces frais augmenter. Personnellement, j'ai des prêts et bourses, ce qui aide énormément. Et en droit, avec la charge de travail, il est impossible de travailler dans un travail rémunéré.
Oui.
Donc, de ce côté-là, on vit avec le minimum. Mais pendant mon premier bac, par exemple, j'ai fait exactement la même chose que madame. J'ai travaillé 20 heures semaine.
Oui.
Et là, c'est une question de mettre nos énergies au mauvais endroit. Les élèves sont moins concentrés et ça a des impacts sur la spécialisation, sur...
On sent aussi qu'il y a, et c'est peut-être Madame Robert Camille qui va nous répondre aussi, il y a un décrochage. Hein, il y a des gens qui sont pas... Ça n'encourage pas les gens de poursuivre, surtout au niveau des études supérieures et tout.
Mm-hmm.
Est-ce que c'est un fait réel ou
Ouais, ben évidemment, ça peut être frustrant pour quelqu'un qui est obligé de travailler 15-20 heures semaine et d'étudier à temps plein tout en s'endettant parce que c'est la réalité pour une grande part d'étudiants et étudiantes. Donc ça peut être frustrant finalement de pas arriver à réussir, de manquer de temps pour mener ses études à bien. Donc, évidemment, c'est ça, c'est des gens qui vont pas compléter leur diplôme, qui vont décrocher, puis peut-être éventuellement faire un retour aux études, là, mais finalement, ça décourage les études post-secondaires.
Peut-être qu'on va écouter l'entrevue qu'on a eue ce matin avec Pierre Patry, trésorier de la CSN, son témoignage aujourd'hui ce matin. On va l'écouter.
Oui, donc bonjour Monsieur Pierre Patry. Est-ce qu'on peut savoir, vous êtes ici à titre de
trésorier de la CSN.
Oui. Et donc, vous savez, vous êtes préoccupé, j'imagine, par les revendications des étudiants. Qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui?
Ben, je vais vous dire qu'on souscrit totalement aux revendications des étudiantes et des étudiants à l'effet de geler les frais de scolarité au taux où ils sont à l'heure actuelle. Nous, on est persuadés que l'augmentation projetée par le gouvernement du Québec dans son dernier budget, qui fait augmenter les frais de scolarité de 325 $ par année pour les 5 prochaines années, ce qui veut dire qu'à terme, c'est une augmentation de plus de 1 600 $, c'est près de 75% d'augmentation pour les 5 prochaines années. On est persuadé que cette augmentation-là aura deux effets. D'abord, nuire à l'accessibilité aux études supérieures pour les jeunes du Québec. Et d'autre part, pour celles et ceux qui vont demeurer aux études, ça va accroître l'endettement des étudiantes et des étudiants. Ça, on est persuadé que ça aura ces deux effets-là.
Quand vous disiez nuire, est-ce que je peux savoir, Monsieur Pierre Patry, est-ce que nuire à une certaine catégorie d'étudiants, vous avez des étudiants supérieurs, est-ce qu'il y a une partie de la communauté étudiante qui sont diminuées, qui ne peuvent pas avoir accès ou généraliser?
Ben, je dirais que ça va nuire, bien sûr, aux moins bien nantis, mais aussi à la classe moyenne, parce qu'on dit qu'on veut augmenter les bourses, mais l'accès aux bourses, c'est pour les très, très pauvres. Dans le fond, les autres, ils ont des bourses et des prêts dans certains cas. Certains n'ont même pas de bourse. Donc, il va falloir augmenter les prêts. Ils vont sortir de façon plus endettée. Je pense que ça va avoir un effet aussi extrêmement important pour les jeunes qui proviennent des différentes régions du Québec. D'ailleurs, le réseau des universités du Québec a signalé dernièrement que 65 % des jeunes qui fréquentent les universités dans le réseau des universités du Québec sont ce qu'on appelle des étudiants de première génération universitaire. C'est-à-dire, c'est des étudiantes ou des étudiants qui vont à l'université, mais dont les parents ne sont pas allés à l'université. Donc, on a augmenté l'accessibilité aux études supérieures depuis 40 ans parce qu'on a maintenu des frais scolarités qui sont bas, mais ça demeure un acquis qui est fragile et on souhaite ne pas compromettre, nous, cet acquis-là.
Je pense qu'il faut noter aussi que là, on parle de l'augmentation des frais de scolarité, mais parallèlement à ça, les frais afférents dans chacune des universités augmentent aussi. Donc, ces 325 $, je regardais dans les journaux, on nous parle de, maintenant, on paierait 1 900 $ par année, mais seulement en frais de scolarité. Moi, si je regarde ma facture à l'UQAM, ça me coûte pas 1 900 $ par année. Ça me coûte presque le double. Ça me coûte 4 000 $. Donc, on parle des frais afférents. Donc, ça serait presque 1 000 $, je crois, au bout de 1 625 $ au bout de 5 ans.
1 625 $, c'est uniquement en frais de scolarité.
Exactement.
Au bout de 5 ans, si on ajoute les frais afférents, les frais de scolarité au bout de 5 ans les passeraient à 3 793 $ par année. Si on augmente les frais afférents, moi, les statistiques que j'ai vues, c'est que ça mène à peu près à 4 700 $ par année. Si on tient compte que 50% des étudiants universitaires gagnent moins que 12 000 $ par année, c'est plus de la moitié de leurs revenus qui irait pour les frais de scolarité. Et là, on parle pas du logement pour se nourrir, puis ainsi de suite. Et 40% des étudiants n'ont aucune contribution parentale, pas parce que les parents veulent pas, bien souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de soutenir les jeunes pour pouvoir faire leurs études. Malheureusement, on est persuadé que quand on combine ces éléments-là, plus de 50% des étudiants qui gagnent moins de 12 000 $, puis avec des frais de scolarité et des frais afférents qui vont avoisiner les 5 000 $, ça ne pourra pas ne pas avoir d'impact sur l'accessibilité aux études supérieures.
Oui, l'impact, moi, je le vois facilement. En même temps, je me posais une question. Je me demandais, de ces étudiants-là qui gagnent moins de 12 000 $ par année, est-ce que vous connaissez le pourcentage qui a le droit aux prêts et bourses? Parce que de ces étudiants-là, il y a des étudiants qui travaillent, il faut le dire, à temps partiel, voire à temps plein. Et on sait, enfin, selon des études, quelles sont les conséquences du fait d'étudier et de travailler en même temps.
Oui, tout à fait. Les dernières études que moi j'ai vues, c'est que, en particulier pour les jeunes, quand ils travaillent moins de 15 heures par semaine, ça n'a pratiquement pas d'impact sur la qualité de leurs résultats scolaires. Mais au-delà de 15 heures, ça commence à avoir des impacts parce qu'à un moment donné, le temps est compté, y compris pour les jeunes. Donc, quand on dit que quelqu'un gagne moins de 12 000 $ par année, même si on augmente les prêts et les bourses, d'abord, il va sortir de là plus endetté, première des choses. Et deuxième des choses, il n'y aura pas plus d'argent à bout de course parce que le prêt supplémentaire, il va le payer en frais de scolarité. Donc, qui risque d'augmenter son temps de travail puis que ça aura éventuellement un impact sur sa réussite scolaire.
Donc, vous pensez que c'est ça qui décourage la plupart des étudiants aussi de cesser ou d'arrêter leurs études, finalement?
Ben, tout à fait. D'ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu des augmentations de frais de scolarité substantielles, et là, on parle de 75% sur 5 ans, ça a eu un impact sur la fréquentation scolaire. D'autre part, quand on regarde l'histoire au Québec et partout dans le monde, quand il y a eu des augmentations de frais de scolarité, en même temps, le gouvernement s'est retiré. Donc, ça donne pas plus d'argent aux universités, ça crée plus de coûts pour l'aide financière aux étudiants. Donc, finalement, on n'en donne pas beaucoup plus aux universités, mais avec des impacts sociaux qui sont extrêmement importants pour les jeunes aujourd'hui, mais aussi pour l'avenir du Québec. Parce qu'une société qui est grandement scolarisée, c'est une société qui sera plus riche, qui sera plus en santé, qui sera plus conscientisée. Donc, en même temps, je dirais qu'on s'attaque à l'avenir du Québec quand on s'attaque à la question des frais de scolarité.
Mais c'est bizarre parce qu'on dit que dans d'autres provinces, les étudiants québécois, ils sont chanceux par rapport aux provinces. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça?
Ben, chanceux. C'est un choix de société. À la fin des années 60, au Québec, on a pris deux grandes décisions concernant l'accessibilité aux études supérieures. D'abord, on a créé les cégeps, première des choses. Et deuxième des choses, on a décidé de maintenir des frais de scolarité qui sont bas. Il faut se rappeler qu'à l'époque, on avait un retard par rapport au reste du Canada en termes de fréquentation scolaire aux études supérieures. Aujourd'hui, si on tient compte de la fréquentation dans les cégeps, on a une avance de 9% aux études supérieures en tenant compte des cégeps et des universités. Ouais. C'est heureux, ça, qu'on puisse avoir cette avance-là. C'est un choix qu'on a fait comme société. Donc, quand le gouvernement, dans son dernier budget, il compare la situation des étudiants aujourd'hui, des étudiants d'aujourd'hui, avec celle des étudiants de 1968, puis il dit, si on avait indexé les coûts depuis 1968, on arriverait au fameux 3 793 $ par année. Donc, c'est équitable entre les générations. Nous, on dit que non, c'est pas ça l'équité. On a fait le choix de maintenir des frais de scolarité bas, justement pour hausser l'accessibilité, alors que dans les années 60, l'accessibilité était très basse. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus grande et c'est heureux pour les jeunes, mais aussi pour l'ensemble du Québec.
Pensez-vous que vraiment le gouvernement est à l'écoute de la revendication de ces étudiants-là?
Ben écoutez, je pense que le gouvernement, jusqu'à maintenant, il a fait la sourde oreille. C'est clair, mais je sais que présentement, il se tient des assemblées générales dans l'ensemble des cégeps et universités du Québec. Et ce qu'on peut voir, c'est que le mouvement a l'air d'être bien enclenché. Il y aura possiblement un déclenchement d'une grève. Ça appartient aux étudiantes et aux étudiants. Mais une chose est sûre, si les étudiants décident d'enclencher la grève, la CSN sera totalement derrière les étudiantes et
les
étudiants.
Pour
on fera tout ce qui est dans nos moyens pour pouvoir appuyer leurs revendications.
Et pourquoi, justement, la CSN s'implique avec les étudiants? En quoi ça l'intéresse et la concerne?
Bien, c'est une question de valeur. La CSN, c'est une organisation syndicale qui lutte pour qu'il y ait plus de justice sociale, plus d'équité, plus de démocratie. Et on est persuadé que la mesure proposée, mise de l'avant par le gouvernement Charest, est une mesure qui va nuire à l'accessibilité aux études. Et en nuisant à l'accessibilité aux études, ça va être l'accessibilité des moins bien nantis ou de la classe moyenne. Ça ne nuira pas probablement aux plus riches. Et en conséquence, c'est moins juste comme mesure sociale que ce qu'on a pris comme décision au cours des 40 dernières années. Et ça s'est fait sans débat de société. Donc, c'est pas démocratique non plus. Donc, la CSN, au nom de la justice sociale, souhaite que les frais de scolarité demeurent bas. En fait, nous, notre position de principe, c'est que les études devraient être gratuites. De la maternelle jusqu'à la fin des universités. Et il y a une étude de l'Institut de recherche en économie contemporaine qui démontrait dernièrement que la gratuité scolaire, ça coûterait environ 200 millions de $ à l'État québécois. Donc, sur un budget de 70 milliards, je dirais, 200 millions, c'est presque rien en termes de dépenses. Mais par ailleurs, ça serait un excellent investissement dans l'avenir pour les jeunes du Québec et pour le Québec en entier. Donc, pour nous, c'est une question d'équité et de justice sociale.
Et si, disons, on peut pas s'en aller vers ça. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée de faire payer les gens après leurs études selon leur salaire? J'ai vu passer ça dans les journaux
oui,
aussi.
Oui, mais écoutez, ça, je vais vous dire, d'une certaine façon, ça existe. Ça s'appelle les impôts. Au Québec, on a un impôt qui est relativement progressif, c'est-à-dire tu paies moins d'impôts, toute proportion gardée si tu as des plus bas revenus que si tu en as des plus hauts. Nous, on souhaiterait qu'il y ait une plus grande progressivité de l'impôt, c'est-à-dire, par exemple, au moins faire en sorte que, comme au gouvernement fédéral, les gens qui paient 130 000 $ il y a un palier supplémentaire d'imposition. Madame Marois du Parti québécois proposait même l'augmentation de deux paliers dernièrement, un à 130 000 et un à 250 000 $ Ça rapporterait juste cette mesure là à peu près 1 milliard dans les coffres de l'État. Donc je pense que c'est une mesure qui fait en sorte que les plus riches payent plus. Ben les étudiantes et les étudiants qui font des études universitaires, qui auront de meilleurs salaires, ben paieront plus d'impôts, mais ils paieront en fonction de leurs revenus. Donc ça existe déjà. On n'a pas besoin d'inventer d'autres formules, puis on n'a surtout pas besoin d'augmenter les frais de scolarité pour ce faire.
Donc, Monsieur Pierre Patry, je pense que derrière cette voix-là, on sent qu'il y a un appui considérable pour tous les étudiants de la province de Québec. Avez-vous un dernier mot à dire à ces étudiants-là pour les encourager à continuer leur, non pas juste la manifestation, mais continuer quand même leur parcours d'études?
Ben, tout à fait. Je dirais que leur lutte, c'est pas juste une lutte des étudiantes et des étudiants, c'est une lutte de l'ensemble de la population du Québec. Parce que leur avenir, c'est l'avenir du Québec. Puis si on veut une société qui soit plus juste, plus équitable, plus riche, plus prospère, mais qui tient compte aussi des impacts sociaux, qui se développe sur l'ensemble du territoire du Québec, ben les étudiants doivent poursuivre cette lutte-là et nous, on sera totalement derrière eux, je dirais même à côté d'eux.
Monsieur Pierre Patry, au nom de tous les étudiants de la province de Québec, je vous remercie de votre témoignage aujourd'hui.
Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Merci.
Donc voilà, c'était le témoignage de Monsieur Pierre Patry, trésorier de la CSN. Maintenant, j'aimerais bien revenir à notre invitée d'aujourd'hui, Madame Camille Robert, étudiante et membre à l'UQAM. Quelles sont vos revendications?
Oui, mais en fait, à la classe, qui est le syndicat national de plusieurs cégeps et universités, oui. Nos revendications, c'est contre toute hausse de frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire, sans égard à l'origine des étudiants et étudiantes. Donc, contrairement à ce qui a déjà été fait par le passé, c'est-à-dire de négliger les étudiants et étudiantes qui proviennent de l'étranger,
oui.
qui paient des très hauts frais de scolarité. Donc, nous, on essaie de se solidariser de, justement, ces personnes-là. Ensuite, notre deuxième revendication, c'est pour des cégeps et des universités libres de l'ingérence du privé. Et enfin, contre toutes les coupures dans les cégeps, on voit qu'au début de l'année scolaire, il y a eu des coupures de plusieurs millions dans les cégeps.
Oui, voilà. Maintenant, j'aimerais bien aussi vous poser une autre question qui est aussi importante. Pourquoi maintenir l'accès à l'université? Qu'est-ce qu'à votre avis, c'est, pourquoi on maintient cet accès à l'université pour tout le monde et toutes les classes aussi, hein?
Ouais, ben on voit qu'à travers cette nouvelle hausse des frais de scolarité là, c'est la place de l'université, c'est son rôle qui est remis en question, oui. Son rôle dans la société. L'université avant, c'était notamment un endroit pour former l'esprit critique.
Oui.
Maintenant, c'est devenu plus une institution d'intégration au marché du travail. À partir du moment où on met un prix sur nos diplômes, on le considère comme une marchandise. Donc c'est en ce sens-là qu'on est pour la gratuité scolaire. Puis tout ça, ça s'inscrit aussi dans un contexte capitaliste de marchandisation des services publics.
Exactement.
C'est-à-dire que de plus en plus, que ce soit la santé ou l'éducation, ces services publics-là, qui auparavant devaient servir la population, la société,
oui.
Maintenant vont devenir des marchandises. On va imposer des plus hauts frais de scolarité, la taxe santé, etc. Donc, faut aussi garder à l'esprit que ça s'inscrit dans ce contexte-là.
Donc, je sais qu'il y a aussi des grèves qui se préparent. Je réserve la question à la fin de l'émission. Et je poserai aussi la question qui me dérange un petit peu à Roland à propos de l'inégalité. Sexe dans les étudiants.
Voyons voir. C'est bien simple. La femme est payée à 61 cents par rapport à l'homme diplômé, naturellement oui. Égal à une pièce pour l'homme. Pourquoi la femme est-elle moins payée? Pourquoi la femme paye les mêmes frais scolaires? Pourquoi la femme est obligée de travailler, d'avoir des doubles emplois et ainsi de suite pour s'en sortir aussi?
Oui.
Mais n'oublions pas une chose. On veut pénaliser la femme parce qu'elle met des enfants au monde.
Oui.
Mais si vous voulez plus d'enfants, qui va payer nos pensions? Qui?
Non, mais vous êtes en train de le dire comme quoi...
On fait de la discrimination.
C'est ça.
Alors qu'un député femme, comme un député homme, touche le même salaire, 156 000 $ de l'opposition.
Voilà.
OK. Oui. Alors, pourquoi des députés ont le salaire égal vis-à-vis de l'homme et pourquoi les femmes ont des différences? Dernièrement, nous avons vu, ça a mis 20 ans avant de donner l'égalité aux facteurs hommes et femmes. Facteur des postes, naturellement, ce que je vais expliquer. Oui. Alors, comment se fait-il que nos députés, eux, ont la chose? Alors, nous allons faire une chose. Nous allons boycotter à toutes les élections les femmes. Comme ça, là, elles vont se réveiller. Elles vont penser à leurs sœurs. Elles vont penser aux femmes qui, en définitive, se fendent en quatre pour pouvoir avoir une éducation et pouvoir avoir une formation.
Madame Camille Robert, est-ce que vous sentez que vous êtes touchée par ces dires? Ça veut dire qu'il y a réellement une inégalité, vous le pensez? Parce que si, par exemple, soi-disant, vous allez devenir prof au futur, je ne pense pas qu'il y a une inégalité de... Mais par contre, dans d'autres marchés, il y a une inégalité de salaire. Hein.
Parce qu'on voit, c'est ça, malgré une égalité théorique entre les sexes au niveau des salaires, concrètement,
théoriquement,
on voit que pour un même niveau de diplôme, les femmes vont être payées beaucoup moins cher que les hommes.
Ouais.
Donc, évidemment, s'il y a une hausse des frais de scolarité, les femmes vont prendre beaucoup plus de temps pour rembourser leurs dettes d'études. Donc, à ce moment-là, on voit que, clairement, l'inégalité entre les sexes apparaît, puis les femmes vont être particulièrement touché par la hausse des frais de scolarité.
Oui, peut-être que je vous demanderai aussi maintenant, vous êtes obligé d'aller en grève, c'est ça? Vous n'avez pas le choix, j'imagine? Hein?
Mais c'est pas tant qu'on est obligé avec un fusil sur la tempe, là, mais finalement, il y a d'autres moyens qui, dans les deux dernières années, ont été essayés. Il y a énormément de manifestations, des occupations de bureaux de ministres, il y a une pétition de 30 000 noms.
Ça donnait quoi? Jusqu'à présent?
Ben, évidemment, on a fait parler de nous, donc ça fait 2 ans que le mouvement est étudiant fait parler de lui, fait entendre ses revendications, puis ça fait 2 ans qu'il y a un énorme travail de mobilisation qui est fait pour faire en sorte que tous les étudiants et étudiantes se sentent concernés par cette hausse de frais de scolarité-là.
Ça devient une sensibilisation qui touche tous les étudiants,
c'est ça? Oui, ça a paru énormément dans les votes de grève qu'il y a eu durant les derniers jours. C'est des votes de grève qui ont passé à 80%, à 90%, dans des assemblées générales très, très populeuses, 900, 1000 personnes, 1100 personnes.
Oui.
Donc, présentement, hier soir, il y a le plancher de déclenchement de la grève qui a été atteint. C'est-à-dire qu'il y a plus de 20 000 personnes dans 5 campus différents qui sont prêts à partir en grève. C'est ça. À l'UQAM, ça va commencer mardi prochain.
Ouais. Mais quand même, tu sais, arrêter des études comme ça, suspendre des études comme ça, est-ce qu'il y aura un impact pour aussi le suivi, hein? Chaque fois que les étudiants, des fois, on ne sait pas, ça va déclencher la grève, elle prendra une journée, un mois, on ne sait pas. Quel est l'impact aussi sur la vie des étudiants?
Ouais, ben
est-ce que
grève,
ça veut dire que vous payez le prix à payer?
Ben c'est une grève générale illimitée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de fin déterminée. Par contre, à chaque semaine ou 2 semaines, il y aura des assemblées générales de reconduction. Donc, les étudiants et étudiantes décideront s'ils veulent poursuivre la grève à ce moment-là. Historiquement, au Québec, il n'y a jamais une session qui a été annulée à cause d'une grève. Donc, c'est souvent une menace qui est rebrandi par le gouvernement, mais au final, c'est le gouvernement qui aurait le plus à perdre s'il y a une session qui est annulée. Sinon, au niveau des stages, il y a énormément de gens qui ont peur pour leurs stages, mais quand ça se déroule à l'extérieur des cégeps et des universités, il y a pratiquement aucun impact. Sinon, il y a toujours moyen de négocier pour que certains cours essentiels au parcours collégial ou universitaire soient pas touchés par la grève. Donc, évidemment, le but, c'est pas de pénaliser les étudiants et étudiantes en grève, mais plutôt de faire un moyen de pression en bloc face au gouvernement.
Donc, n'oubliez pas une chose, vous permettez, n'oubliez pas une chose, que vous avez le bras fer au moment des élections. Ne votez plus pour ces cochons-là. Point final. Des cochons, on n'en a pas besoin.
Vrai,
ils ne veulent pas que vous étudiez de façon à ce que vous ne preniez pas leur place.
Mais il a raison aussi. Hein. Vous avez une carte à jouer d'ici l'été. D'ici l'automne, je pense qu'il y aura des
préparations. C'est au moment des élections. Vous avez le bac.
C'est la seule occasion que vous avez dans la main de le faire.
Parce qu'ils ne veulent pas que vous les remplaciez, ces gens-là. C'est pour ça qu'ils veulent vous laisser dans l'ignorance.
Mais Madame Camille Robert, vous avez quand même, ici, de ton train, une voix qui encourage tous les étudiants à aller en grève, c'est ça? Est-ce que vous avez un mot à dire à ces étudiants aujourd'hui?
Je dirais seulement que ça fait 2 ans qu'il y a énormément de moyens qui sont utilisés pour combattre la hausse des frais de scolarité. Puis le gouvernement fait toujours la sourde oreille. Donc là, c'est le moment d'utiliser un moyen qui a historiquement apporté le plus de gains au mouvement étudiant dans l'histoire du Québec. Donc ce soit...
Vous invitez d'être solidaires, j'imagine?
Oui, j'invite tous les étudiants et étudiantes à être solidaires. Je pense que la grève, c'est un mal nécessaire.
Oui.
Ce qu'on a vu à travers l'histoire, c'est que c'est le seul moyen qui a réussi à faire plier le gouvernement, que ce soit en 96, en 2005 ou même avant. Donc, j'encourage tout le monde à se mobiliser.
Elle n'est pas juste nécessaire, mais elle est intournable aussi. Clara, j'aimerais bien. Clara, vous êtes étudiante aussi. Avez-vous un mot à dire aujourd'hui, comme un mot de fin, comme pour les étudiants. Les étudiants, vous l'êtes déjà.
Mais comme mot de fin, je voudrais juste dire aux étudiants de continuer à se battre solidairement pour son droit à se cultiver.
Et vous les encouragez aussi, de votre part aussi, de partir en grève, j'imagine.
Bien sûr. Oui. Par principe, tout simplement. Oui. Et peut-être continuer de militer pour qu'on arrête de percevoir l'éducation d'une optique économique, éviter que l'éducation devienne un service et que l'État prenne ses responsabilités et fasse son devoir à lui maintenir l'éducation accessible à tous, à tous les jeunes.
Et pourquoi ne pas aussi revendiquer le droit gratuité aussi.
Et la gratuité scolaire.
Ailleurs, elle existe et ici, elle n'existera pas.
On a des casinos, on a qu'à faire un système de façon à financer les études de nos étudiants avec les gains. Pourquoi pas?
Avez-vous un mot à dire, un dernier mot, monsieur Roland, pour encourager surtout les étudiants?
Non, pas d'imagination, mais
encourager les étudiants.
Moi, j'estime que les étudiants doivent continuer à manifester, se présenter, et n'oubliez pas que ceux qui ont le droit de vote ont une puissance. Et n'oubliez pas, c'est au moment du vote que vous réglez les comptes.
Voilà, donc malheureusement, c'est tout le temps qui nous reste cette émission. J'aimerais remercier mes deux invités d'aujourd'hui, monsieur Pierre Patry, trésorier de la CSN, et madame Camille Robert, étudiante et membre et étudiante de l'UQAM, tous les deux d'avoir accepté justement de témoigner dans cette émission. Merci à mon collègue Roland Cazès dans son soutien. Merci à madame Rosemonde Legault pour le soutien technique et pour son suivi administratif. Merci à Clara d'être au rendez-vous toujours et d'avoir participer à cette émission aujourd'hui aussi. À Radio Centre-Ville 102.3 FM, on dit merci de nous avoir cédé cet espace afin que la parole de l'autre existe. À moi, je vous dis merci, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été à l'écoute et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir.
Toujours le même vœu. Quand je souffle les bougies, puis l'étoile passe au loin en déchirant ce ciel vide. Que je pourrais regarder sans fin, moi je préfère battre les rues, quitte à tomber de temps en temps, affronter la saison des claques qui revient inlassablement. Je n'ai pas avancé d'un pouce, je trébuche toujours autant. Lorsque je sillonne ma route, je me prends les mêmes branches, je visite les mêmes trous, je déteste toujours les dimanches, autant que la fin du mois d'août. Moi, je préfère battre les...
J'y fais face, j'ai la maladie d'Alzheimer. Mon diagnostic m'a permis de continuer à profiter de la vie à ma façon.
Plus les gens s'informent au sujet de la maladie d'Alzheimer, plus ils pourront affronter l'avenir et le planifier.
Je suis allé consulter mon médecin immédiatement.
Un diagnostic précoce peut faire toute la différence.
J'y fais face, vous le pouvez aussi.
Pour en savoir plus, allez sur alzheimer.ca.
Tous les mardis de 10h à 11h, Radio Centre-Ville offre aux 50 et plus une émission axée sur la santé, la culture, les services sociaux, communautaires et gouvernementaux. C'est l'émission Au bel âge qui vous parle de l'actualité des aînés tous les mardis de 10h à 11h.
Encore une nuit blanche.
Nuit blanche, l'émission qui bouge et qui dérange. Tous les lundis soirs de 23h30 jusqu'à 3h du matin. Là où le hip-hop vit à Radio Centre-Ville, le 102,3 FM. Avec Dice B, Cabo Bliss, baby. Yeah.
Insérez une plaque porte-clés des amputés de guerre dans votre trousseau de clés par mesure de sécurité. Si vous perdez vos clés, l'association pourra vous les retourner par messagerie. Commandez vos plaques porte-clés au 1-800-250-3030 ou à amputedeguerre.ca.
Depuis le 27 janvier 1975, Radio Centre-Ville représente la diversité de Montréal. Nous donnons le micro pour permettre aux Montréalais et Montréalaises de se rencontrer. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.